Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite ou leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le berry comme point commun. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le rappeur Chien. Ellie a toujours été attirée par l'artistique, le théâtre avec sa première scène, les beaux-arts, enfin la musique comme moyen d'expression pour travailler le texte. Mais c'est son besoin de collaborer avec d'autres qui vont le pousser de fil en aiguille à pénétrer le monde du rap. Après 8 dates, en première partie de l'Homme Pâle, dans des immenses salles, un nouveau projet musical voit le jour cette année, accompagné d'un documentaire. On a parlé du rap, des rappeurs, de flow, de performance, mais on a évoqué également Harry Potter, le théâtre, Steinbeck et les chiens. Voilà, je vous embarque à la découverte de Chien, un rappeur introspectif. Goodberry, c'est parti. Bonjour Ellie.
Salut.
Je suis ravi de t'avoir sur le podcast.
Eh ben, c'est un plaisir, c'est un honneur.
Initialement, moi, pour les podcasts, je pose toujours la première question sur l'enfance. Je voulais savoir si tu étais Castelroussin, Berrichon.
Je suis né à Talence, donc à côté de Bordeaux. Mais mes parents, ils sont venus à Châteauroux. Je pense que j'avais 1 an et demi, donc oui, j'ai passé mon enfance ici à Châteauroux. Quoi. Ouais.
Comment tu la qualifierais, ton enfance ici ?
Assez heureuse, hein. J'ai vraiment pas à me plaindre. On est arrivé, ça, j'avais 2 ans. Et après, j'ai fait toute ma scolarité ici. Tous mes amis actuels, alors hors de mes amis de la musique qui sont tout autant mes proches, mais que j'ai rencontrés même plus tard dans ma vie à Paris, la majorité de mes amis actuels, c'est des gens de Châteauroux, c'est des Castelroussins. C'est des gens que j'ai rencontrés du primaire au lycée, quoi, et avec qui je suis toujours resté assez soudé. Mmh.
La scolarité, ça se passe comment ?
Assez bien, en vrai. Je crois que j'étais plutôt bon élève jusqu'au collège. Le collège, un peu comme tout le monde, je crois que j'ai commencé à vouloir m'affirmer, me rebeller, à être un petit peu bête. Et au lycée, j'ai des très très bons souvenirs du lycée, notamment parce que la majorité de mes amis actuels, je les ai rencontrés à ce moment-là. Et on a passé 3 très très bonnes années à faire beaucoup la fête, à découvrir un peu la vie, entre guillemets, plus adulte. Et j'ai beaucoup aimé ça.
Il y a des matières qui t'intéressent à ce moment-là, plus que d'autres ?
Bah, j'aimais le français, j'aimais la philo, j'aimais l'anglais. Le reste, j'étais pas particulièrement performant, ça m'intéressait moins. Mais j'aimais le français parce qu'en fait, j'aimais la langue. J'ai compris vite que j'aimais la langue parce que quand j'étais petit, j'ai beaucoup lu. Et donc, ça m'a ouvert un peu ce monde, le monde des mots, de la syntaxe, de comment t'exprimes une idée par plein de biais différents, notamment parce que la langue française, elle permet ça, quoi. Elle permet d'avoir une largeur de termes et d'expressions qui est super belle. Et donc, on peut dire la même chose avec plein de phrases différentes. Et ça, je trouve ça trop, trop bien, quoi. J'ai commencé à comprendre ça.
Il y a des bouquins qui te marquent, ouais, quand t'es jeune, comme ça ?
Qui m'a marqué, c'est Harry Potter, et c'est Harry Potter, et pour l'histoire, et pour vraiment la découverte des mots. Ça m'a fait découvrir plein de mots, ça m'a fait apprendre des mots, ça m'a fait regarder dans le dictionnaire des mots que je connaissais pas, et ça m'a donné la curiosité, en fait, de la langue, en fait, de la langue et de l'expression, et de comment exprimer le mieux possible ses idées, ou comment trouver des formulations qui sont belles, ou qui sont poétiques, ou qui ont un truc un peu de magique, quoi. Et donc, le fait d'avoir lu Harry Potter très jeune, j'ai lu d'autres trucs de jeunesse, mais Harry Potter, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est la saga qui m'a le plus touché. Mais je pense comme plein d'enfants de ma génération, hein. Pas anodin, quoi.
Et sur la série Harry Potter, ton personnage que préféré, tu préférais, ouais.
Bah, je pense comme tout le monde, quand j'étais petit, c'était Harry. Le récit, il fait que c'est Harry le héros, donc moi, quand j'étais petit, j'avais pas trop l'esprit critique de me demander pourquoi est-ce qu'on faisait d'un personnage ça. Pour moi, un personnage, il n'y avait pas de question de pourquoi l'auteur est-ce qu'il rend ce personnage comme ça, quoi. Aujourd'hui, des fois, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a écrit ce personnage-là comme ça. Et du coup, ça me questionne sur qu'est-ce qu'on a voulu faire passer par ce personnage-là, qu'est-ce que la série veut faire passer avec ça. Bon, à l'époque, juste, c'était Harry parce que c'était Harry le héros, quoi.
Et la série, pour toi, c'est quoi ? C'est le bien et le mal ?
C'est un peu manichéen, mais en même temps, c'est ça qui est un peu beau, je trouve. C'est un peu innocent, parce que bon, de toute façon, le monde, il n'est pas foutu comme ça. Il n'y a pas que le mal et le bien, mais ouais, il y avait ça. De toute façon, Voldemort, c'est que ça, quoi. C'est le Voldemort, c'est le mal ultime. Il veut détruire le monde, quoi, clairement. C'est la toile de fond, donc je l'avais en toile de fond. Je l'ai cerné en toile de fond, comme tout le monde, parce que de toute façon, on comprend bien. Tout est fait pour que tu comprennes ça, mais je crois que c'est pas vraiment ça qui m'a marqué, quoi. C'est plus le récit, comment tu vois les personnages évoluer, comment je me rappelle que j'ai trouvé ça de plus en plus sombre, et comment, ça m'a, comment j'ai aimé ça, comment j'ai aimé sentir l'évolution et l'adolescence des personnages, le fait qu'ils soient moins des enfants, qu'ils deviennent plus des jeunes ados, si ce n'est adultes précoces, parce que la vie les forçait à. Et ça, je trouvais ça grave intéressant de sentir que petit à petit, le monde était beaucoup moins joli et doux qu'au début, même si de toute façon, quand même Harry Potter, dès le tome 1, en vrai, c'est assez flippant, en fait. Je me rappelle quand j'ai vu le premier film au cinéma, alors que j'avais déjà lu les bouquins, j'avais été un peu déçu du film parce que t'es toujours déçu.
Comme toujours.
D'un... Alors qu'en
une
fait,
adaptation.
Ouais, et en fait, je pense que quand même, ça reste une des meilleures adaptations que j'ai vues de ma vie, en fait, au final, de bouquins, quoi. Mais je me rappelle que la fin du 1, notamment le film, plus que le livre, j'avais trouvé qu'elle était flippante, quoi. Après, j'étais un enfant, j'avais 9 ans, quoi, mais je trouvais qu'elle était, je trouvais qu'elle faisait peur pour un enfant, quoi. Mais ça, je trouvais ça bien aussi, que ce soit un peu, qu'il n'y ait pas trop de concession, ça fasse un peu peur, quoi. Parce que le méchant, c'est un vrai méchant, quoi.
C'est sûr. Pour revenir à la scolarité, il y a des, dans ton parcours, il y a des profs qui te marquent.
Ouais, il y a Madame Tano, qui était ma prof de français au lycée, et ma prof de théâtre aussi au lycée, qui était un extra en fait du lycée, quoi, qui était pas un truc qui, ça comptait pas dans les cours, quoi, mais elle faisait ça avec Madame Sanchez, il me semble. Et moi, c'est mon meilleur pote Léo qui m'a dit, je crois en début de première, il m'a dit, vas-y, viens, fais la classe de théâtre avec Madame Tano, ça va être cool. Moi, j'étais un peu frileux, et en fait, le fait que lui me propose, ça a fait que ça m'a donné l'élan.
T'étais frileux, pourquoi ?
Bah parce que, en fait, je crois qu'un peu bêtement, t'es exposé, donc le fait d'être exposé, ça fait que tu peux aussi être ridicule, quoi, tu vois. T'as moins le contrôle sur ce que t'es, sur ton image, et quand t'es au lycée, je crois que... En tout cas, moi, ma construction, c'est forcément très lié à mon ego, mais je pense comme un peu tout le monde à cet âge-là, quoi. Et donc je pense que j'avais un peu peur en fait d'être ridicule en fait très très bêtement, hein. Et aussi parce que le théâtre, tu sais pas ce que tu vas jouer, tu sais pas à quel point ça va être absurde ou pas, tu sais pas avec qui tu vas jouer, tu sais pas quoi, tu vois. Et moi je connaissais rien en plus au théâtre, donc mais au final j'ai beaucoup aimé ça. J'ai des souvenirs de séances de relaxation, on commençait par faire ça, on commençait par se mettre, je sais pas, au sol et par essayer de faire par exemple toucher le bas de son dos avec le sol, enfin avoir des trucs où c'était des trucs de respiration, quoi, où il fallait se détendre, où il fallait... Et où ça marchait très bien, en fait. J'étais surpris parce que ça marchait très bien. Au bout de 20 minutes, j'avais envie de m'endormir par terre, quoi.
Tu t'en sers toujours ?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Je pense que je devrais le faire, des fois, ça me ferait du bien. Mais j'ai des très bons souvenirs de ça. Et donc, du coup, pour en revenir au prof, c'est notamment Madame Tano, ouais, qui m'a beaucoup marqué parce que je trouvais que c'était une prof incroyable, qui était très humaine, qui avait un rapport très intéressant avec ses élèves, enfin, qui avait un rapport très sain avec ses élèves. Elle était aussi trop cool en tant que prof de théâtre. Et le fait de l'avoir en tant que prof de théâtre un peu extrascolaire, ça faisait qu'on avait aussi un lien. Les élèves du théâtre avec elle, je pense qu'ils avaient un lien un peu plus privilégié. Elle nous considérait toujours comme des élèves. Mais c'était un peu plus cool, quoi. Comme on menait un projet à bien commun, bah, y avait un élan solidaire. Plus qu'en classe, où en classe, c'est quand même un prof qui apprend à ses élèves. C'est pas le même rapport, quoi.
Ouais. Et il y avait un spectacle ?
Ouais, il y avait un spectacle de fin d'année, ouais. On jouait avec Inox.
Et quand tu montes sur scène, c'est la première fois pour toi ?
Ouais, c'était la première fois. C'était ma première scène, en fait.
Et alors ?
Et j'ai beaucoup aimé. J'ai plus beaucoup de souvenirs des moments. Je me souviens plus d'un en particulier, mais je me rappelle même plus lequel c'était, parce que du coup, on a fait trois. 3 ou 2, je sais plus si j'ai commencé en terminale ou si on a commencé en première. Mais en gros, on a fait première terminale et on a aussi fait celui de l'année d'après, où on était en études sup. Et moi, j'étais à Châteauroux aux Beaux-Arts, à l'école de prépa des Beaux-Arts. Et Léo, il était à la fac. Donc en fait, on était encore à Châteauroux et on a continué à faire le théâtre l'année d'après avec du coup les élèves de Jean J. Et nous, on avait juste envie de le faire, quoi. C'était cool de revenir, d'être avec nos anciennes profs, du coup, maintenant. J'ai pas de souvenir de ça, j'ai pas de souvenir précis d'émotion, de scène, mais j'ai le souvenir que j'ai beaucoup aimé, que c'était des très bons moments. J'ai beaucoup aimé les moments, mais parce que c'était aussi des moments avec mes amis, quoi. Il y avait donc un de mes meilleurs amis, Léo, et plein d'autres gens qui en fait étaient soit des gens que je connaissais pas trop du lycée, mais au final que ça nous rapprochait parce qu'on avait une activité commune, soit bah, juste d'autres potes qui étaient là, et du coup c'était cool, quoi. C'était agréable, c'était un moment un peu extrascolaire, mais quand même dans le cadre du lycée. C'était, moi, je sais pas, c'était cool, moi j'aimais bien ça.
Ouais. Tu te souviens du nom des pièces ou pas ?
Il y en a une qui s'appelait Non, c'était très contemporain. C'était ouais, très contemporain, des fois à la limite de l'absurde un peu. Et au final, donc moi je savais que je comprenais pas vraiment ce qu'on jouait, mais je pense qu'on était pas mal dans ce cas-là. Mais en même temps, c'était pas mal parce que ça faisait qu'on avait que le texte pour s'accrocher, quoi. Comme le texte avait un peu ni queue ni tête, et aussi certainement que j'étais assidu sur apprendre mes textes, donc je connaissais mes textes, je jouais, j'étais là, mais je crois que j'ai pas trop fait l'effort de comprendre ce qui se passait dans la pièce. Mais c'est un peu comme ça que ça résonnait en moi à l'époque, et juste j'étais content de le faire en fait. Entre guillemets, peu importe ce que je jouais, on était content de le faire ensemble avec la troupe, quoi.
Et à ce moment-là, t'as des tips pour apprendre les textes ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que juste que j'avais plutôt une bonne mémoire et que je travaillais pour, quoi. Et que, ouais. On répétait pendant les séances, donc je les apprenais à ce moment-là. Et après, je pense que je devais un peu apprendre quand j'étais chez moi. J'étais studieux.
Ouais. Et aujourd'hui ?
Je les apprends, mais je les apprends à force, en fait. Parce que je suis assez long à écrire. J'ai des potes qui écrivent 10 fois plus vite que moi, quoi. Et ça fait que, du coup, inévitablement, je connais mes textes. À la fin, quand j'ai terminé mon couplet, quoi, je le connais.
Ah oui.
Mais c'est bien, moi, j'aime ça. Enfin, ça fait que, du coup, après, j'ai pas le travail à faire de le réapprendre pour la scène. Donc, ça fait que, quand j'arrive sur scène, je suis à l'aise avec, quoi. Enfin, j'ai pas cette pression-là. J'ai l'impression de l'interpréter bien et d'être scéniquement performant, quoi, c'est ça, ouais. Mais j'ai pas la pression de connaître mon texte. Ça fait que j'ai déjà quand même ça en moins sur la conscience avant de monter sur scène. Et ça, ça m'arrange, je préfère ça, quoi.
T'as quand même des textes qui sont assez longs.
Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'informations. Donc si jamais tu drops, si jamais tu oublies un moment, et ben en fait, tu dois reprendre directement parce que après, ça dépend à quel point tu écris espacé. Moi, des fois, j'écris un petit peu espacé, donc je peux avoir le temps de reprendre mon souffle. Et il n'y avait pas de parole à ce moment-là, mais en vrai.
C'est arrivé, ça ?
Ouais, bien sûr, ouais, bah oui, ça arrive à tout le monde, de toute façon, de perdre un moment. Enfin, ça m'est déjà arrivé de perdre des paroles, ça m'est déjà arrivé de me planter ou de me décaler sur le tempo, des moments où je n'avais pas de métronome et en fait, du coup, tu dois rapper sans le métronome, mais entre guillemets de mémoire, parce que la métrique de l'instrument, elle te donne quand même ta métrique, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé de me perdre là-dedans et d'être hors temps et de me perdre dans les temps. Ça m'est pas trop arrivé. Ça m'arrive des fois d'oublier une parole sur le moment parce que je sais pas, parce que je vois quelqu'un dans le public, parce que mes yeux, parce que je me fais accrocher sur un truc et parce que je sors de ma bulle. Et des fois ça arrive juste sans que tu te rendes compte, quoi. Ça arrive alors que tu connais tout par cœur comme hier et comme demain, mais je sais pas, bon, cette date là t'as oublié cette phrase là alors que d'habitude tu l'oublies jamais. Bon, des fois ça arrive, quoi. Moi, il y a des fois où les gens, alors de moins en moins parce que je commence à avoir de plus en plus d'expérience de scène, donc j'ai de plus en plus d'expérience et de repères, ça, exactement, ouais, pour me raccrocher quand des fois je sens que je me perds. Mais il y a des moments où, dans les premières fois, ou même encore récemment, ça m'est arrivé sur des plus grosses scènes, des fois je me perds dans les gens, parce qu'il y a tellement de gens, et tout le monde te regarde, donc des fois tu te demandes ce que les gens y pensent, des fois tu vois que les gens ils s'en foutent, des fois tu vois que les gens ils parlent entre eux, des fois tu vois que les gens ils ont l'air d'être contents, qu'ils ont l'air d'aimer, mais ça fait que, tout ça en même temps, du fait que tu performes, que t'actes avec ton corps, que tu dois être incarné aussi de la musique, quoi. Donc il y a le fait de performer, enfin il y a le fait de chanter, et puis il y a le fait d'incarner corporellement, quoi. Donc c'est aussi une discipline, quoi.
Et pour l'incarner corporellement, ouais. Tu répètes ça ?
Je pense que comme tout ça vient avec le fait d'être à l'aise, et j'ai eu l'année dernière j'ai fait une espèce de concours sur Paris qui est un concours national, donc qui se fait par région. Donc en gros c'est un concours de rap, quoi. Enfin c'est pas que du rap, c'est majoritairement des gens qui font du rap qui s'y inscrivent. Et donc il y a 8e, quart, demi-finale, finale régionale. Et quand tu passes la finale régionale, ensuite c'est finale nationale. Et ensuite, à la fin de ça, tu as 15 000 euros, je crois, et une genre de tournée, de mini-tournée qui est prise en charge par la structure. Moi, j'ai été jusqu'en finale régionale et je n'ai pas passé cette étape-là. Et ça, c'était bien parce que quand tu arrivais en finale régionale, tu avais une résidence qui était offerte par la structure qui faisait le concours, qui était une résidence de plusieurs jours pour taffer ton show et ton live. Et tu avais un coach scénique qui t'était attribué aussi. Et donc, moi, j'ai eu Léa Lidge, que je ne connaissais pas du tout, qui était très cool. On s'est bien entendu. Et elle m'a fait progresser, je pense. En fait, en tout cas, elle m'a mis des trucs dans la tête que je n'avais pas avant, auxquels j'essaye de penser maintenant, sur certains morceaux très importants.
C'est-à-dire ?
Par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle Bâtiment, qui est un morceau qui est un morceau qui est très intime et c'est un morceau qui est très espacé. Donc c'est un peu litanique. J'ai le même débit tout le morceau. C'est un morceau qui dure 4 minutes 30, donc c'est un morceau qui est assez long pour les formats actuels, quoi. En fait, actuellement, la musique, le rap, c'est quand même plutôt 2 minutes 30 le format, quoi. Et comme c'est très litanique et que c'est tout est une boucle dans le morceau, et mon flow et la prod, et entre guillemets, chaque mot a sa place, chaque mot est très, très choisi, quoi. Quand je l'interprète, j'ai moins le truc de d'autres morceaux qui ont plus de débit, qui sont plus rapides, où en fait, tu vois, je peux sauter, je peux courir, je peux avoir un truc où en fait l'énergie de mon corps, elle donne l'énergie globale du morceau au public. Là, en fait, c'est un truc où je suis immobile, tu vois, je suis immobile, je bouge pas. Ou des fois, je marche très lentement, tu vois, peut-être pendant le second couplet, je commence à marcher un petit peu, à regarder les gens dans les yeux, etc. Mais avant ça, je suis très immobile, donc il y avait un truc où, tu vois, des fois, je me dandinais un peu quand je faisais mes premiers trucs, tu vois, elle me disait, bon, arrête de te dandiner, t'es droit, tu ne bouges pas, tu vois, t'es un i, et ça fait que du coup, il y a un truc où les gens, dans ce que t'envoies aux gens, t'as l'air moins de titiller, tu vois, ou de dandiner, ou de pas savoir ce que t'es, tu vois, enfin, de pas savoir ce que tu fais, même si c'est pas ça que j'envoie, vraiment, tu vois, mais je comprends qu'elle me dit, en fait, entre eux, être un peu comme ça, bouger un peu les épaules, faire un petit pas de côté, et être tout droit, c'est pas le même signal que t'envoies, c'est pas la même chose qui se passe que pour les gens. Et bah ça, par exemple, c'est un truc que j'essaye de refaire beaucoup. Des fois, j'oublie. Des fois, je me fais prendre par l'émotion, par les gens. Mais j'essaye de l'avoir en tête. Ça, c'était un des trucs les plus... En tout cas, comme c'est un morceau qui est très lent, et c'est un morceau sur lequel j'ai l'impression de devoir... Enfin, que c'est plus difficile d'incarner d'instinct, c'est un des trucs qui m'est le plus resté en tête.
D'accord.
Après, il y a le truc de, bah, par exemple, comment j'arrive sur scène... ou comment j'arrivais sur scène, notamment pour ces scènes-là, là, pour les scènes du concours. Tu vois, quand tu arrives sur scène, tu tournes la tête et tu regardes directement le public, et tu balayes le public des yeux, tu la regardes. Au lieu de regarder dans le vide tout droit, et ensuite de te retourner pour les regarder, tu arrives et tu les regardes directement, par exemple. Tu vois, ce qui fait que, eh ben, en termes de ce que tu envoies comme assurance, de ce que tu envoies comme tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de pourquoi tu es ici, ça change les premières impressions que les gens ont de toi, en tout cas sur ton assurance, et aussi sur ce que toi... comment ça peut te booster aussi de te sentir assuré, etc. Tu vois.
Il y a des fois où tu t'es demandé que tu faisais là ?
Non, jamais, parce que je sais ce que je fais là. Ça fait trop longtemps que je travaille pour ça. Donc je sais à chaque fois, même quand c'est plus difficile, même quand des fois le public il y a pas grand monde. De toute façon, j'ai jamais eu des publics difficiles en vrai. Je crois, j'ai eu des publics qui me connaissaient pas. Donc ça, ces publics là, c'est toujours plus difficile. Enfin, de toute façon, majoritairement, j'ai des publics qui me connaissent pas, ou des publics qui me connaissent via mon entourage musical, qui est 75e Session, et qui sont les rappeurs de 75e Session, dont Sheldon, dont je suis le backer actuellement. Donc quand j'arrive sur scène avec lui, je fais des morceaux à moi, très souvent les gens me connaissent par affiliation. Donc ça, c'est très agréable, et ça fait qu'il y a quand même des gens qui me connaissent, donc c'est quand même très agréable d'avoir aussi peu d'abonnés Insta, et d'avoir des chiffres... qui sont pas énormes sur Spotify, mais quand même d'avoir des publics qui connaissent mes morceaux, qui chantent avec moi, ça c'est quand même très gratifiant. Mais du coup, quand j'ai fait le truc de concours, quand j'ai fait la première partie de Lompal, quand j'ai fait d'autres trucs, des concerts en mon nom, avec des coplateaux avec d'autres gens, et ben là je suis face à des publics qui me connaissent des fois pas du tout, et c'est ça aussi le métier, quoi. C'est que tu dois, et en fait c'est ça aussi qui est plus logique pour là où j'en suis actuellement dans ma carrière. C'est ça qui est logique, c'est d'être devant des gens qui ne me connaissent pas, de devoir confirmer, de devoir leur montrer que faut m'écouter, que je suis fort, que je suis intéressant, quoi. Et donc ça, c'est ça, en fait, moi j'aime, enfin je trouve ça bien, parce que j'ai commencé en ayant plutôt des concerts plus simples avec des gens qui me connaissaient un peu, grâce à mon entourage musical. Et donc ça, c'était archi gratifiant, parce que ça m'a permis de me booster directement, d'avoir un truc où les gens... ça m'a permis justement de ne pas me poser la question, de ne pas me dire qu'est-ce que je fous là, tu vois. J'arrivais, les gens connaissaient déjà un petit peu mon nom, ils connaissaient déjà quelques morceaux à moi. Pour moi, ça me boostait à fond, ça me donnait un peu le baume au cœur nécessaire. Et ça me donnait aussi l'assurance d'arriver ensuite un peu plus tard sur des scènes avec que des inconnus devant moi, et d'arriver un peu plus serein, quoi. Donc ça, c'était cool. Ça, c'est bien, parce que c'est un défi. Et moi, j'aime ce truc-là d'arriver, de sentir que les gens ne te connaissent pas et que t'as tout à prouver, quoi. Et qu'après, tu y arrives ou tu n'y arrives pas, mais tant que je sors de scène et que j'ai le sentiment que j'ai bien fait, que j'ai fait ce que j'avais à faire, bah après, c'est le reste, c'est les goûts, les couleurs des gens. Bon, ça, c'est autre chose, quoi. Moi, je j'ai pas d'action là-dessus, quoi.
Pour revenir à la scène et au théâtre, c'est dans ces années-là où tu te dis que tu ferais bien un métier artistique ?
Ouais, bah c'est à la sortie du lycée, parce qu'en fait, je savais pas quoi faire. En même temps, je me posais pas trop la question, en vrai de vrai. J'étais un peu... J'étais un peu, je m'en branlais un peu. Mais je savais que j'avais pas très envie de faire un truc, entre guillemets, conventionnel, quoi. J'avais pas très envie de faire un taf de bureau. Même si ça veut tout dire et ça veut rien dire au final. Hein, ça...
Il y a des gens qui s'éclatent dans les...
Bien sûr. Non, mais de toute façon, en fait, c'était une vision que j'avais aussi un peu, une vision de quand j'étais, j'étais ado, quoi. Donc, enfin, j'avais aussi un truc qui était un peu plus manichéen. Aujourd'hui, en fait, je comprends très bien que tu peux être... Même le parcours fait que des fois, je me dis qu'il y a des gens... Pas que j'envie, mais je me dis des fois, en fait, c'est plus simple d'avoir choisi une voie plus conventionnelle parce que tu te poses moins de questions. Enfin, entre guillemets, tu peux avoir ton pavillon à 30 ans, avoir un prêt et avoir un confort de vie qui est moins dû quand tu choisis une carrière un peu artistique, quoi, tu vois. Et en fait, tu vois, quand j'avais 17 ans, je m'en foutais de tout ça, quoi, tu vois. Juste, j'avais l'impression que c'était chiant et que ça m'intéressait pas, quoi. Mais donc ouais, ça, en fait, ça a commencé, c'est ça, vers 18 ans. En fait, vers 18 ans, j'ai commencé à vouloir écrire. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours énormément soutenu. Et elle m'a dit, à la sortie du lycée, elle m'a dit, si tu veux, il y a la prépa Beaux-Arts au Châteauroux. Comme ma mère fait de la peinture et que j'ai quand même toujours grandi un peu dans ce... J'ai eu la chance de grandir là-dedans, dans un quand même milieu qui était culturel et qui était artistique. Et qu'elle a... et que je pense qu'elle, elle a aussi vécu en fait ce truc-là de, de devoir vivre de son art, quoi, de sa passion. Je pense qu'elle est aussi très compréhensive du fait d'avoir une passion, de la nourrir, de la laisser évoluer. Et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment une chance. Et du coup, elle m'a proposé de faire les Beaux-Arts. J'ai fait ça, j'ai été reçu à l'année de prépa. Et ensuite, après, j'ai fait les Beaux-Arts. J'ai passé les concours et j'étais dans les écoles, nationales, quoi, enfin supérieures. Et là, au final, c'était un peu en dents de scie. C'était très en dents de scie parce qu'en fait, plus ça allait, plus j'avais envie de faire de la musique. Mais j'avais du mal à me donner le moyen parce que je connaissais personne, en fait. Enfin, pendant un petit moment, j'étais juste tout seul dans ma chambre à rapper, quoi. En fait, je pense comme plein de gens. Mais donc, j'avais pas vraiment d'entourage et j'étais un peu frileux sur le fait d'en parler. Je me trouvais pas assez fort, donc j'avais. Bah, donc, juste, je savais pas trop. Quoi. Mais ça faisait qu'en même temps, j'étais pas très assidu sur le côté plastique des Beaux-Arts. Quoi. Donc, c'était vraiment une scolarité en dents de scie, mais ça m'a permis de rencontrer des gens très ouverts d'esprit. Ça m'a permis d'avoir une genre d'ouverture d'esprit et de culture un peu globale et de l'art et du monde de l'art qui était quand même pas inintéressante, quoi, qui m'a quand même ouvert sur plein de trucs. Ça, c'était super intéressant. Et après, de fil en aiguille, en quatrième année, en fait, les Beaux-Arts, c'est comme la fac. En quatrième année, tu peux partir en espèce d'équivalent Erasmus, quoi. Moi, je suis parti, j'ai rencontré un ami là-bas qui s'appelle Dylan, qui était un ami d'enfance de Sheldon, qui est mon ref actuel avec qui j'ai un studio et dont je suis le backer. Et il m'a dit, en fait, Sheldon, il prend des stagiaires ingé son et des stagiaires, entre guillemets, un peu de musique, quoi. En fait, Sheldon, c'est un mec à mon âge, quoi. C'est un mec qui a un an de plus que moi. Donc, lui, il avait déjà un studio avec ses potes. Ils étaient déjà des rappeurs que moi j'écoutais. Ils avaient déjà, entre guillemets, un background et une réputation, quoi. Et mon pote Dylan m'a dit, bah, si tu veux, Sheldon, il prend des stagiaires. Tu peux aller en stage. Enfin, tu peux peut-être aller en stage là-bas, quoi. Avec Nigel, qui est mon ref avec qui j'ai eu mon premier groupe de rap, en fait, Fulkenera, que j'ai rencontré à Bourges, en fait, que j'ai rencontré pendant mes années de Beaux-Arts à Bourges. C'est la première personne avec qui j'ai... Alors non, il y avait Alex avant, mais c'est la première personne avec qui j'ai fait du rap sérieusement, en fait. Et avec qui on s'est dit qu'on allait essayer de faire du rap de manière sérieuse, quoi. Que c'était plus un truc qu'on faisait dans notre chambre. Et donc on est partis tous les deux en stage là-bas, à 3 mois d'intervalle. Et moi, c'est comme ça qu'on a rencontré ces gens-là. Et qu'après, moi, je suis resté là-bas, quoi, en fait. Je suis resté avec ces gens-là et que j'ai commencé à progresser vraiment en termes de rap, en termes de comprendre la musique, en termes de comprendre le rap plus largement, la production du rap, mes goûts, ce que j'avais envie de faire, mes influences.
Et le côté musique, il arrive quand ?
J'ai toujours aimé la musique, en fait. Hein. Ma mère, elle a toujours écouté de la musique quand j'étais petit. J'ai toujours aimé ça. C'est toujours un truc qui m'a vraiment porté, quoi. Mais je crois, en fait, juste, je me posais pas trop la question quand j'étais petit de savoir si je voulais en faire ou pas. Juste, je vivais avec parce que ma mère en écoutait tout le temps. Et en fait, les deux sont venus en même temps. Juste, c'est l'écriture qui m'a touché en premier, donc j'ai voulu écrire, quoi. Et ensuite, j'ai écouté du rap et j'ai compris que je voulais écrire du rap parce que il y avait la forme rythmique qui faisait que, enfin, rythmique et la forme de rime, donc de poétique, en fait, quoi, qui faisait qu'il y avait un truc de métrique dans lequel, quand ta rime elle tombait au bon moment, il y avait un truc qui, je sais pas, ça me faisait des frissons, quoi. Genre quand je trouvais que c'était bien dit, quand je trouvais que ça avait un sens, quand je trouvais que c'était touchant, quoi. Il y a peu de choses qui me transportent autant que ça, je trouve, en termes d'émotion, en termes de ce que ça me fait ressentir. Et du coup, juste quand j'ai écouté des morceaux de rap français qui m'ont fait ça, je me suis dit, ok, en fait, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de toucher les gens de la même manière que je me sens touché actuellement, tu vois.
Il ouais. y en a un qui t'a touché particulièrement?
Bah, je crois dans les premiers, dans le premier truc que j'ai écouté, mais de toute façon c'est très banal, hein, c'est désolé, mais c'est Booba. Hein, c'est Booba dans les premiers albums qu'il a sortis, Panthéon, Temps Mort, même Lunatique, avec Mauvais Oeil.
Qu'est-ce qui t'impressionne quand il sort ça?
Le premier album que j'ai écouté lui, en fait, c'était Westside. Et donc là, j'avais 14 ans, mais là, je l'écoutais plus comme quelqu'un, comme un ado qui écoutait du rap, quoi. Donc je l'écoutais, j'aimais ça, mais j'avais aucune prétention d'en faire. Et quand je suis arrivé vers 17-18 ans, j'ai commencé à avoir vraiment de l'appétence pour l'écriture. J'ai écouté ses anciens albums, et bah, je sais pas, c'était l'honnêteté qu'il avait, la manière de le dire, la manière d'être cru, la manière d'être cru et poétique, d'être aussi violent et aussi sensible en fait en même temps. Comment ça parlait d'une vie que je connaissais pas en fait, de la vie de cité, de la vie de banlieue. Comment ça m'a permis d'avoir entre guillemets accès à cette mentalité, de comprendre aussi ce que ça voulait dire que de vivre, enfin que d'être ces gens-là entre guillemets, même si je l'ai jamais été, que de toute façon je le serai jamais. Mais ouais. Ça m'a ouvert une porte. Pour moi, être obligé à être plus ouvert aussi et à, je sais pas, moi je viens de Châteauroux, donc en fait Châteauroux, il y a les UP qui sont quand même, qui sont pas très fun, quoi. Mais en fait, il y avait mon cousin qui habitait là-bas, j'allais le voir, mais bon, j'avais pas trop de. Je comprenais pas trop, quoi, ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait, socialement pour les gens, ce que ça impliquait en termes de niveau de vie, en termes de difficultés. Et ça, je pense que ça m'a. Ça a été une porte, comme plein d'autres, qui m'ont juste questionné sur qu'est-ce que ça pouvait être de grandir comme ça.
Est-ce que tu t'es pas dit c'est quand même un obstacle? Parce que moi, je suis pas de ce monde-là.
Ah, c'est un obstacle de faire du rap alors que je viens pas d'ici?
Ouais.
Non, parce que. Bah, parce qu'en fait, c'était quand même déjà très décloisonné quand moi j'ai commencé à vouloir faire du rap. En fait, il y avait déjà Orelsan qui était arrivé. Orelsan, c'était quand même l'anti-rappeur de base, quoi. Genre, c'était un blanc qui était que un loser et qui revendiquait le fait d'être un loser. Tout ce qui était l'inverse du rap jusque-là, qui était un truc très masculiniste, très violent. Qui était justement un truc de gagnant, quoi, qui n'était pas du tout un truc de loser. Et bon, en fait, moi, j'aime les deux, au final. Je me suis rendu compte que j'aimais les deux autant, pour des raisons différentes, parce que je trouve que c'est très touchant d'assumer que tu es un loser. C'est aussi très touchant d'assumer que tu es meilleur que tout le monde, mais que juste les manières de le faire et comment tu le fais, bah, c'est ça qui définit à quel point c'est intéressant, quoi. Et quand j'écoutais Orelsan, ou quand j'écoutais même des trucs beaucoup plus alternatifs comme TTC, etc., je trouvais aussi mon compte, quoi, là-dedans. Je pense que c'était plus catégorisé comme du rap de blanc, en fait.
Comme Eminem à l'époque.
Ouais, alors qu'en fait, Eminem, c'était beaucoup plus cru, beaucoup plus street, en fait. C'était un rap de blanc, mais pas du tout un rap de blanc comme le rap de blanc français tel qu'il est apparu dans les années 2000, quoi. Qui était en fait un rap, entre guillemets, de gens de middle class qui avaient eu presque un peu la chance de se poser des questions, quoi. Dans le bon et dans le mauvais sens, tu vois ce que je veux dire.
Il y a encore cette distinction, tu penses?
Non, je crois pas, non. Comme peut-être le rock avant ça, moi j'ai moins écouté de rock, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même phénomène. C'est des phénomènes qui sont arrivés parce que socialement il y en avait besoin, à un moment où il fallait. C'était des mouvements de révolution, quoi, des mouvements qui disaient des choses à la société et de la société, et qui, comme tout, ont été englobés par le système, aussi par choix, parce qu'en fait l'industrie du rap, à un moment, elle a décidé de faire ça. Et l'industrie globale de la musique et de l'art. Et du divertissement, elle a aussi décidé que le rap c'était le nouveau truc qui était bankable, donc c'est un commun accord. Des fois il y a des discours de gens qui disent que le rap c'était mieux avant, je pense pas que ce soit vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'avant c'était très différent, parce que avant c'était une musique sociale, aujourd'hui c'est une musique de tout, c'est une musique qui est encore sociale, mais c'est une musique aussi commerciale, qui est une musique du...
Bankable, quoi.
Ouais, c'est ça, et c'est pas grave, quoi, c'est juste que c'est comme ça, et que du coup maintenant en fait tu peux, là dans la nouvelle génération de rappeurs, des gens qui ont une vingtaine d'années, et bah, t'as des gens qui font du rap sur des prods qui sont des prods électro, en fait, sur des prods à 120 BPM, sur des prods presque de trance, en fait, des trucs qui n'ont rien à voir avec le rap à la base, mais qui, en fait, sont du rap maintenant, parce que les gens qui en font ont les codes des rappeurs, parce que c'est ça qui fait que ça marche, quoi, entre guillemets, et que, comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Ça veut dire que, du coup, ça n'a plus vraiment de forme, le rap, ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais en même temps, bon, bah, c'est comme ça que ça fait que c'est une industrie qui marche, ça fait que c'est comme ça que c'est une industrie qui permet à plein d'artistes beaucoup moins connus et beaucoup plus en marge d'avoir une économie, d'être des gens qui peuvent vivre de leur musique jeune et avec peu de choses, en ayant un home studio et en diffusant leur musique et en se rendant compte qu'elle plaît, que tu peux être playlisté alors que t'as pas un public mainstream. Mais en fait, aujourd'hui, c'est possible. C'était pas le cas il y a 20 ans, tu vois. Il y a 20 ans, si t'avais pas une maison de disques et tu voulais être un rappeur, même de toute façon un musicien de manière générale, hein, un artiste quoi, c'était juste pas possible quoi en fait, tu pouvais pas quoi.
Comment t'arrives à faire tes premiers clips ?
Un peu comme le home studio s'est démocratisé parce que en fait ça devient de moins en moins cher d'avoir un home studio chez soi, ça devient de moins en moins cher d'avoir un appareil photo qui fait de la vidéo quoi. C'est comme tout, ça se décloisonne, ça coûte toujours un petit peu d'argent hein, mais dans ma génération, c'est la génération qui a commencé à faire des clips eux-mêmes parce que ça coûtait moins cher que d'engager des gens. Et parce que tu pouvais acheter un Sony A7S et que ça coûte un petit peu d'argent, mais qu'en fait avec ça tu pouvais faire des clips de rap quoi.
Et donc toi tu fais ça ?
Non, moi j'ai pas fait ça, mais tous mes proches ont commencé un peu comme ça, et du coup, enfin moi j'ai pas clippé moi-même quoi, mais les gens avec qui j'ai commencé à faire mes premiers clips, c'était ça quoi, c'était la débrouillardise, on était ensemble, on avait une caméra, on essayait de faire des trucs quoi. Et après, mon premier clip solo c'était Ciao, c'était il y a 4 ans je crois, un clip qui était un peu démesuré en termes de moyens déployés par rapport à qui j'étais, à savoir que c'était je trouvais que c'était un très gros clip.
Si vous étiez assis sur une chaise, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai mis des petites réserves désormais sur l'esthétique du clip, mais vis-à-vis de ce que moi j'avais envie de faire et sur ce que j'estime être mon image désormais. Mais je trouve que c'est un clip qui n'est pas du tout ridicule pour là où j'en étais à l'époque quoi. C'est un clip qui me semble assez pro entre guillemets et ça je trouve que c'est quand même une chance, et ça c'est grâce à...
Mais dans ce cas là t'investis, tu payes pour avoir ce
ouais,
clip là.
Alors donc ouais. Là j'étais avec Paula qui sont Paul et Lola, qui sont des amis que je salue, et oui donc bah là j'ai mis de l'argent moi, et Paula a aussi mis de l'argent, on a payé tous les deux, enfin tous les trois en gros, et eux en tant que boîte de prod, il me semble. Je sais même pas si c'est une boîte de prod. Peut-être j'ai n'importe quoi. Et moi, en tant que rappeur, quoi. Mais oui, bah oui, de toute façon, oui. Hein.
Et là, d'ailleurs, t'as une stratégie, c'est-à-dire que tu lances ça sur les réseaux, t'envoies ça aux maisons de disques.
Non, pas maisons de disques. Non, on a mis ça sur les réseaux. Hein. En fait, de toute façon, on a fait un truc assez simple. On communique sur Instagram, on diffuse le truc. Après, on, enfin, comme un peu ce que tout le monde fait, quoi. Hein. On a commencé à envoyer un peu des trucs, il me semble, à des médias, etc. Pour la sortie de mon projet Neige, il y a un an et demi. Qui était mon premier EP solo. Et donc là, quand on a sorti ça, on a envoyé le projet à des médias quoi, pour qu'ils écoutent, pour avoir des reviews, pour avoir éventuellement des interviews, pour avoir juste des gens qui parlent du projet. Quoi.
Ouais. Et ça se passe comment ?
Quel retour j'ai eu ?
Ouais.
J'en ai eu quelques-uns. Ça va, c'est plutôt bien passé. Hein. Moi, je n'avais pas d'attente particulière parce que c'était mon premier projet solo. Donc je voulais pas mettre la charrue avant les bœufs. Je voulais pas me créer d'attentes qui me déçoivent à un moment. Donc en fait, juste j'y allais comme ça. J'ai eu ce que j'ai eu, j'ai pas eu ce que j'ai pas eu, et ça va bien comme ça quoi. Enfin, ça m'a pas, c'est pas trop un truc sur lequel je m'attarde. Je me dis que de toute façon c'est des choses qui viennent un peu d'elles-mêmes quoi. Au fur et à mesure, quand tu commences à confirmer les choses, que les gens te prennent plus au sérieux, en fait, ça arrive.
T'as cette philosophie-là ?
Ouais. J'ai l'impression que jusque-là j'ai un peu de la chance. J'ai l'impression.
Qu'il y a du travail aussi.
Ouais, bah je travaille. Mais j'ai aussi un entourage qui m'a permis de, un entourage musical qui m'a permis de rencontrer plein de gens, qui m'a permis d'être vu de plein de gens. Donc ça, c'est aussi une vraie chance. Mais je pense que, comme tout, c'est une chance que je dois à des gens qui me l'ont donné. Et c'est aussi une chance que je me dois à moi parce que, entre guillemets, si j'avais pas fait l'affaire ou si j'étais pas assez convaincant, en fait, juste, je serais pas resté avec ces gens-là. J'aurais pas été, j'aurais pas pu, en fait, je pense. Donc, je pense que c'est un truc qui vient des deux, quoi, qui vient de ce que l'espèce de confiance un peu que j'ai aveugle en moi, qui peut-être me jouera des tours un jour, peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai l'impression juste d'être un peu serein. C'est quand même très stressant, hein, parce que ça me fait... Enfin, c'est une vie particulière, mais j'ai l'impression d'avoir eu des signes, tu vois, genre... Je me suis fait virer des Beaux-Arts à Toulouse ma première année, parce que je foutais rien, parce que j'étais un branleur, parce que j'étais un peu triste, je faisais un peu n'importe quoi. Ma mère m'a dit, bon, allez, tu reviens à Bourges, à côté de Châteauroux, comme ça tu vas faire un peu moins n'importe quoi, on aura un peu plus l'œil sur toi. À Bourges, j'ai rencontré Ilias, avec qui j'ai fait mon premier groupe de rap, Dylan, qui m'a fait rencontrer Sheldon, et la 7-5, qui m'a fait arriver en stage là-bas. Le fait d'être arrivé là-bas, ça m'a fait devenir... Je suis devenu un rappeur, quoi. Je suis devenu quelqu'un qui commençait à être un rappeur qui n'était pas ridicule, qui se posait des questions... Enfin, j'ai commencé à devenir moins nul, quoi. Ça m'a permis, du coup, je suis devenu ami avec ces gens-là, avec la 7-5, parce qu'on s'est tous bien entendus, qu'on avait tous le même âge, qu'on voulait tous faire la même chose, en fait. ça m'a permis, et de là, tout s'est enchaîné, quoi. Je suis resté avec ces gens-là, on a ouvert un studio ensemble, maintenant je fais partie de la tournée de Sheldon, je fais des projets pour moi, je travaille sur des projets de mes amis. Donc ça m'a permis d'être, entre guillemets, vu par l'homme pâle, de le rencontrer, qui me propose de faire sa première partie. Donc en fait, c'est un...
Et ça se passe comment, ça, quand tu rencontres l'homme pâle?
Ça s'est passé au concert de Sheldon, du Nouveau Casino, pour la release de son album Spectre, il y a deux ans, ouais, deux ou trois ans, je ne me rappelle plus, je confonds un peu les dates, mais 2021, je crois. Ouais, c'est ça, 2021, décembre 2021, donc ça fait deux ans, ouais. Et à cette occasion-là, j'ai fait un morceau à moi qui s'appelle Bâtiment, c'est le morceau dont je parlais tout à l'heure.
Ouais.
Et à la fin du concert, on se parlait un peu avec les gars, et l'Homme Pâle était là, moi je ne l'avais jamais vu, mais en fait, c'est l'Homme Pâle, c'est un mec qui connaît toute cette bande-là, parce qu'ils ont tous commencé à faire du rap ensemble, dans la même époque, ils ont un peu traîné ensemble, ils ont fait des clips, ils ont fait des conneries, quoi. Après, chacun a eu son chemin, mais c'est des gens qui se connaissent toujours un peu de loin, quoi. Qui se connaissent toujours. Et je sais pas, on était dans un cercle, et je sais pas, l'Homme Pâle, il est venu, il m'a dit, ah, c'est le morceau que t'as fait, c'était cool et tout, donc ça m'a fait grave plaisir. Et je sais plus, on a papoté un peu entre moi et puis d'autres, enfin, lui et moi et d'autres gens, quoi. C'était un truc un peu commun. Et l'année d'après, il nous a invités, Sheldon et moi, chez Skyrock, pour faire un planète rap pour la sortie de son album, pour la sortie de son dernier album, là, Mauvais Ordre. J'étais aussi archi surpris, et donc j'étais très content de le faire. C'était très surprenant et très gentil de sa part, quoi, entre guillemets. Il me doit rien, et donc j'ai eu le sentiment qu'il le faisait parce que ça lui faisait plaisir, et parce que donc ça m'a grave boosté aussi de sentir ça, quoi. Et là, il y a un mois et demi, j'étais au Canada pour la tournée de Sheldon avec les gars. Et à un moment, Vigi, qui est un autre de mes amis avec qui j'ai le studio, qui fait partie de Fix Pencil, qui sont aussi des amis de l'Homme Pâle de longue date, avec qui ils ont fait plein de trucs, etc. Il m'a appelé en me disant, il y a Antoine qui m'a appelé pour savoir si... Enfin, il change sa première partie, il voulait savoir si jamais toi, ça t'était intéressé. Et je lui ai dit, dis-lui que oui, hein, bien sûr que oui. Et voilà, après on s'est appelé, et puis on a fait les trucs.
Tu penses à quoi à ce moment-là?
Je savais pas, c'était très surprenant. En plus, j'étais au Canada, donc déjà j'y vais un rêve du fait d'être au Canada. Ça me fait trop plaisir d'être là-bas, de découvrir le pays. J'ai une petite fascination pour l'Amérique du Nord, pour l'espèce de complexe américain, enfin pour l'espèce de syndrome des États-Unis, quoi. Un truc qui est un paradoxe, quoi, qui me semble être qu'un paradoxe, mais qui me semble aussi fascinant. Comment j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans la culture, du coup, du rap, d'MTV, du basket. J'ai fait du basket pendant toute ma vie, enfin pendant toute ma jeunesse. Et donc là, j'étais là-bas, j'aimais trop ça me faisait trop plaisir de découvrir un peu le Canada. Donc déjà, je vivais des très bons moments, on faisait des concerts, on était avec les gars, on aimait trop ça. Je tournais des clips pour mon prochain projet qui va sortir, donc c'était trop cool, quoi. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Je tombais un peu des nues. C'était trop bien, quoi. C'est trop bien. Ça m'a fait trop plaisir. Et donc, j'ai répondu, bien sûr que oui, ça me faisait. C'était trop bien pour moi, quoi. C'était très surprenant, mais trop bien pour moi. Et donc, après, on a fait.
Il a un regard sur les morceaux que tu vas faire en première partie?
Non. Non, mais parce qu'il est. En tout cas, il a été archi bienveillant, je trouve. Enfin, il nous a beaucoup inclus. Et donc, il savait qu'on est arrivé sur la tournée et qu'on a été. C'est comme si on faisait partie de la tournée déjà, quoi. Il nous a vraiment inclus. Et tous les gens de la tournée nous ont inclus aussi. Donc, ça faisait qu'on avait le sentiment d'être un peu à notre place, quoi. Et ce qui fait que c'est déjà agréable de sentir ça. C'est pas obligatoire. Enfin, moi, entre guillemets, je demande rien à personne. Si déjà j'avais l'opportunité de faire les premières parties et qu'on me considère juste comme une première partie, j'aurais été déjà très très content, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas besoin de plus, quoi. Et donc déjà il y a eu ça. Et après, non, en fait, moi, il m'a dit très vite, moi, pour moi la première partie, le but c'est de faire découvrir des artistes aux gens. C'est pas forcément que les gens chauffent la salle pour moi, dans le sens où, genre, de toute façon, moi, quand j'arrive, tout le monde est là pour moi, donc j'ai pas besoin de ça, entre guillemets. Et même cette philosophie là je trouve qu'elle est stylée, de pas essayer d'avoir, de faire valoir, entre guillemets, mais d'avoir un truc où de dire, voilà, moi je fais des choix d'artistes qui me plaisent, et pour les faire découvrir aux gens. Et ensuite, les gens, ils aiment ou pas, quoi. Mais en fait, le public actuel de l'Homme Pâle, il est quand même beaucoup moins rap que ce qu'il a été avant, parce que lui c'est un rappeur pendant très longtemps, et désormais c'est moins du rap, entre guillemets. Il y a un show qui est beaucoup plus rock, et ses derniers albums sont moins des albums de rap. Mais en fait, c'est quand même un mec qui vient de ce monde-là, et il m'a dit qu'il trouvait ça cool de aussi que les gens aient accès à ça, quoi.
Par contre, tu changes quand même de dimension, hein, de salle.
Ouais, c'est monumental, ouais.
C'est monumental. Ouais, quand on pense à Lyon, c'est monumental.
Ouais, c'était monumental. C'était 12 500 personnes, c'est la plus grosse salle que j'ai fait de ma vie. C'était énorme.
Et tes instants avant de rentrer sur scène,
J'avais des walkers, souvent. Alors que je suis pas quelqu'un d'extrêmement... Enfin, je suis pas stressé, mais je suis un peu anxieux de manière générale. Là, j'étais pas vraiment stressé, mais je sentais un truc dans mon corps, quoi. Je sentais un truc dans mon corps quand on commençait à se chauffer en loge avec avec Junker, qui est mon ref et mon DJ avec qui je suis parti. Quand on commençait à se chauffer dans les loges, à faire un peu, je sais pas, moi je faisais un peu des trucs où je sautillais, je me chauffais un peu les jambes, enfin je faisais en sorte d'avoir le corps chaud, quoi, pour pas être froid en arrivant sur scène et pour être déjà dedans. Et donc je commençais à rapper mes trucs pour avoir la voix chaude, etc. C'est bon, voilà, ça commence à me faire un peu un truc dans le ventre, quoi. Et quand j'arrivais, on a fait l'erreur les deux premières scènes d'arriver 15 minutes avant pour s'installer. En fait, c'était très très long parce que tu vois tout le monde, enfin tu t'entends les gens, en fait, t'es derrière la scène mais t'entends les gens et c'est monstrueux, en fait. Il y a tellement de gens, c'est tellement un brouhaha. Et on te met les oreillettes. Moi, j'avais jamais eu de ears, en fait. Donc, c'est les oreillettes que t'as. Parce qu'en fait, sinon, la diffusion du son, les salles sont tellement grandes que la diffusion du son, en fait, il y a un délai qui est monstrueux, en fait. Donc, tu te perds. Tu peux pas rapper dans les temps, en fait. À moins d'être très, très habitué, de connaître, quoi. Mais moi, c'était absolument pas mon cas. Donc, déjà, il fallait que je me fasse aux oreillettes, au fait d'être coupé, en fait, d'être coupé du monde, d'avoir un ressenti très studio, de voir les gens qui font du bruit, qui parlent, qui crient, mais de les entendre beaucoup moins que d'habitude. Donc c'est déjà le feeling que t'as sur scène, il est très différent parce que tu comprends pas vraiment l'interaction que t'as avec le public, quoi. C'est un truc de très très de bulle, quoi. Donc c'est difficile de comprendre ce que les gens ils te renvoient, parce que même je sais pas, moi c'est un truc, c'est corporel quand on est dans des salles entre 400 et 1000 personnes, que les gens ils font du bruit, en fait je le sens dans mon corps, quoi. Genre, je sais pas, la taille de la pièce, l'acoustique, ça fait que je sais pas, et à quel point les gens sont près de moi, ça fait que je le sens dans ma cage thoracique, en fait. Quand ils font beaucoup de bruit, ça met une pression acoustique, et ça moi j'aime ça parce que ça fait que je sens. Enfin, du coup, ça, pour moi, c'est un baromètre de savoir ce qui se passe, de savoir comment les gens sont contents ou pas. Là, dans une salle aussi grande, en fait, déjà, je suis incapable de savoir à quel point les gens peuvent faire du bruit ou pas, donc je suis incapable de savoir quelle réponse ils me donnent et si elle est bien, si c'est assez de bruit ou si c'est juste un peu nul, en fait, par rapport au nombre de personnes qu'il y a. Donc, en fait, je sais pas, quoi. Je sais pas, quand je demande du bruit aux gens, quand je dis, alors, fait du bruit. Et qui font du bruit, je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est nul, je sais pas si c'est ridicule. Et en plus, comme j'ai les oreillettes, j'entends beaucoup moins que ce que je dois entendre d'habitude, donc c'est perturbant, donc je sais pas, en fait. Donc sur la première scène, c'était un peu difficile de savoir.
À la fin du show, j'imagine que tu prends énormément de plaisir. Ouais. Mais quand tu rentres, tu prends du plaisir?
Bah, c'est toujours un moment qui était difficile. Mais enfin, je prenais pas de plaisir, hein. J'étais quand même très content, mais c'était un moment qui était plus dur, mais parce que c'était aussi un choix, entre guillemets, de ma part. C'était un choix un peu tricky, mais je pense que c'était un bon choix. Mon premier morceau, c'est un morceau, enfin le morceau sur lequel je rentrais dans le set, c'est un morceau qui s'appelle Scoop Vide, et c'est un morceau du coup sur lequel il y a pas de rythmique au début, il y a pas de batterie, donc je suis juste sur un genre de synthé, et si jamais je me perds dans ce moment-là sans la rythmique, c'est vraiment la merde parce que du coup je perds ma métrique, et que du coup au moment où les drums se lancent, je suis pas là où je devrais être, et donc comme c'est le premier morceau, c'est vraiment c'est la première impression que j'envoie aux gens, quoi. Et malheureusement, et de toute façon, même les gars de la tech et les gars de la tournée me disaient, entre guillemets, ce que les gens retiennent, c'est la première, c'est ton premier morceau, ton dernier morceau. C'est comment tu rentres et comment tu sors. Si on veut faire un peu large, quoi, tu vois. Et je pense que c'est assez vrai, en vrai, parce que c'est la première et la dernière impression. Et donc ce morceau-là, il est un peu technique parce que c'est dur d'être bien dans les temps, notamment comme j'ai les retours, comme j'ai les ears, comme il y a les gens, comme c'est énorme comme ça, comme je dois encore m'y faire d'une scène à l'autre. J'ai eu 8 dates, donc 8 dates c'est beaucoup et c'est très peu en même temps, et c'était très rapproché, donc ça c'était bien parce que ça me permettait d'avoir un truc constant, quoi, de pas attendre un mois entre chaque date et de perdre ce que j'avais gagné sur celle d'avant, quoi. Mais ça faisait que quand même... C'était un choix un peu difficile parce que c'était pas un choix qui était simple. C'était plus difficile pour moi de rentrer là-dessus que sur des morceaux qui étaient bien plus pour moi des autoroutes, quoi. Ce qui fait que, entre guillemets, je pouvais planter mon entrée. Et donc ça, c'était un peu dur, mais pour ce que le morceau il était, pour ce qu'il donnait au public et pour l'ambiance qu'il donnait, moi je trouvais que c'était assez important que ce soit ce morceau-là. Donc j'étais content de le faire.
Ouais, tu te dis, je me mets en danger, mais ça vaut le coup.
Ouais, c'est ça, exactement. Et puis je me disais, bon, bah, de toute façon, j'avais peur que ce soit un risque stupide, donc un risque qui me mette dans la merde. Donc il y a une fois où je l'ai planté, à Toulouse. C'est la seule fois où je l'ai planté. Et là j'étais tellement hors temps que j'ai dit à cœur, vas-y, enfin à mon DJ.
Tu t'arrêtes le truc?
Ouais, j'ai dit à Junker, j'ai dit bon allez vas-y, c'est pas possible, pas commencer le concert comme ça, vas-y. Là j'étais trop nul, venez on refait, fais du bruit et on refait, tu vois. De toute façon je pense que c'est mieux de faire ça, c'est mieux d'assumer, c'est mieux de pas montrer aux gens que de toute façon c'est comme tout, donc tu peux te planter, tu vois, genre... De toute façon, ce que j'ai compris très vite avec la scène, mais encore plus sur des scènes aussi énormes que ça, c'est que c'est toi qui donnes le ton, notamment sur des scènes comme ça, où c'est un public qui est, c'est tout le monde, en fait. Tu vois, c'est des lycéens qui sont devant, qui sont les plus gros fans, des familles derrière, des couples, des amis qui viennent ensemble, c'est tout et n'importe quoi, quoi, tu vois. Moi, d'habitude, quand je fais des concerts de rap, c'est un public assez hétérogène. Donc, c'est des publics qui connaissent le concert de rap, qui connaissent ce qu'on fait dans un concert de rap, qui connaissent l'énergie qu'il faut donner au concert de rap. Là, c'est tellement informe, c'est tellement tout et n'importe quoi que c'était très difficile de savoir ce qui se passait. Et du coup, en fait, c'est un public qui est un peu un public, entre guillemets, tu peux plus être un marionnettiste, en fait, tu vois. Donc, tu peux plus leur dire, on fait ça, et ils le font. Tu vois, si tu as l'assurance nécessaire pour qu'ils comprennent que c'est un moment d'échange et que tu les mettes à l'aise, tu peux leur demander de faire après n'importe quoi, ils vont le faire, tu vois, si tu les mets à l'aise. Et donc ça, j'ai compris ça, par la force des choses, quoi. Et donc, de toute façon, plus t'es serein, même si personne ne s'est quitté, et de toute façon, les gens, ils viennent pas pour toi, donc t'arrives, t'es inconnu au bataillon. Moi, en plus, je devais me présenter, mon nom de rappeur, c'est Chien, donc c'était des fois, c'est presque une blague, tu vois, les gens, ils savent pas si c'est une blague, si c'est pas une blague, tu vois. Comme c'est un peu hors du commun, quoi, on dirait pas que c'est une insulte. Ça fait que j'ai dû aussi trouver une manière de dire que je m'appelais Chien sans que ce soit un moment comique, en fait. Tu vois, sans que ça mette un espèce de truc. Enfin, ou que c'était un moment comique, mais que c'était pas un moment comique qui était à ma défaveur, quoi. Tu vois, comme si j'allais limite faire du stand-up, tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Mmh.
Et donc, il fallait que je rentre en assumant ça, en assumant le fait que c'était une très grosse scène, qu'il fallait que je sois en place devant les gens. Et en fait, très vite, j'ai compris que plus j'étais à l'aise, plus j'étais presque un peu directif, sans être autoritaire, mais directif dans « allez, on fait ça, faites du bruit, faites ça, faites ci, levez les mains en l'air pour ce morceau-là ». En fait, plus tu le fais, plus les gens aussi passent un bon moment, parce que c'est un moment de communion, quoi, tu vois, c'est un moment dans lequel c'est un partage, quoi. Donc moi, j'ai kiffé ça, et j'ai kiffé le fait que sentir que de manière crescendo, alors après, je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'à la fin, j'étais presque plus sur mes acquis, donc j'ai l'impression que peut-être l'avant-dernière scène, elle était un peu moins bien parce que peut-être j'étais un peu trop sur mes acquis, mais la toute dernière, Lyon, c'est celle que j'ai le plus aimée, alors que c'était la plus grosse, mais parce que le public était trop trop cool avec moi, genre c'est le public qui a été le plus cool avec moi, même si de toute façon, de manière générale, le public était très bienveillant avec moi, hein, je n'ai pas trop de souvenirs d'avoir eu de trucs où les gens n'étaient pas cool, quoi. Des fois, un peu des gens qui me parlaient ou qui me disaient des trucs un peu n'importe quoi, mais bon, de toute façon, j'étais dans le truc et justement, je faisais en sorte d'oublier, assez vite, j'ai commencé à mûrer parce que sinon, en fait, je sentais que je pouvais trop me perdre dans les gens et oublier mes morceaux, etc., quoi. Donc, il y a un moment où je regardais moins les gens, enfin, il y a un moment où j'étais en plus dans ma bulle. Mais la dernière scène, c'était vraiment la meilleure, moi, celle que j'ai préférée à Lyon. Les gens étaient très, très cool. Les gens allumaient les flashs sur bâtiment sans que je leur demande et je trouvais ça très, très cool de leur part. Ça veut dire qu'ils se sont dit d'eux-mêmes, enfin, qu'il y a des gens qui se sont dit d'eux-mêmes qu'il fallait le faire. Et du coup, la salle a suivi de manière générale. Et je sais pas, pour moi, c'est un petit accomplissement parce que c'est des milliers de personnes et que t'arrives à créer un truc, un engouement un peu, tu vois. Les gens comprennent que, enfin, les gens se disent que c'est un morceau peut-être qui vaut le coup, que ce soit un morceau où il y ait des flashs comme Johnny Hallyday, tu vois. Et je sais pas, moi, ça m'a mis trop de baume au cœur, quoi, de sentir que les gens le faisaient d'eux-mêmes. Je sais pas, c'est trop bien, quoi. Ouais. C'est trop bien.
Il te fallait absolument un pseudo dans ce monde-là.
Alors non, c'est pas obligé, enfin, j'aurais pu dire que mon nom de rappeur c'était Eli, hein, mais moi j'avais envie d'avoir un pseudo, quoi. C'est aussi très lié au rap, quoi. Le rap c'est très lié au pseudo.
Et tu le trouves comment, le pseudo?
En fait, je l'ai pas vraiment trouvé, je l'ai pas vraiment cherché, en fait, juste c'est un peu fait comme ça. Je crois que je cherchais pas vraiment à en avoir un, juste à un moment il a fallu que j'en choisisse un. Et il y avait déjà un peu Chien qui traînait depuis un petit moment, à la base c'était peut-être... C'était un peu un truc, je savais pas trop, peut-être c'est le nom de mon premier projet quand j'avais 20 ans. J'ai jamais sorti de projet à cet âge-là, mais quand j'avais l'idée de sortir des trucs, où je me disais peut-être que le projet allait s'appeler Chien. En fait, je sais pas, au moment où j'ai dû mettre mon nom quelque part, bon, du coup c'était Chien parce que j'avais un peu que ça en tête, quoi, entre guillemets. Et au final, moi, ça me va très bien. Enfin, je suis content aujourd'hui de ce choix-là, du fait que ce soit un choix un peu sans faire exprès, enfin juste soit un choix où... J'avais pas trop pensé en amont, mais juste le moment où il a fallu que je le choisisse, c'est ça qui a clignoté dans ma tête, parce que c'était le seul truc que j'avais un peu envisagé, quoi, dans ma vie.
Et pourquoi tu changes la première lettre?
Parce que je voulais juste décorréler un peu de l'animal, même si c'est quand même très très lié à l'animal. Hein. Moi, c'est la signification numéro une de ce truc-là, c'est l'animal, quoi. C'est des genres de bêtes à chagrin, c'est archi touchant. Je trouve que c'est trop... Il y a beaucoup d'empathie chez les chiens, et il y a un peu un truc d'amour bête, où les chiens, ils vont toujours aimer leur maître, même si leur maître, c'est la pire des merdes, quoi. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant. Je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau d'avoir un truc. C'est bête, quoi, tu vois. C'est presque un peu triste, tu vois. Mais je trouve ça très touchant. Et je sais pas, j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie, chez mon père, chez ma mère. Et donc je pense que ça fait que j'ai eu un rapport aux chiens en fait depuis mon enfance. J'ai toujours eu des chiens. Donc du coup, depuis beaucoup qui sont morts et des nouveaux que j'ai eu, etc. Et donc je sais pas, j'ai eu un rapport à cet animal-là avec plein de races différentes. Et je sais pas, j'aime ces animaux quoi. Je trouve qu'ils sont très touchants. Et en fait, je sais pas trop pourquoi. C'était ça plus qu'autre chose que j'avais envie de mettre en avant. Mais du coup, c'est ça que j'ai retenu quoi.
Et chien, il a un chien ?
Non, j'ai pas de chien. Enfin, chez mes parents, j'en ai. Pour rendre un chien heureux, il faut beaucoup beaucoup s'investir. Et actuellement, dans ma vie, j'ai pas le temps. J'habite à Paris, donc à Paris, avoir un chien, ça veut dire soit t'habites à Neuilly, dans un pavillon, quoi, ce qui n'est pas mon cas. Soit t'es chez toi entre midi et deux, t'es chez toi le soir, t'es chez toi le matin, t'es chez toi tout le temps parce que tu dois le nourrir, tu dois le sortir, tu dois le rendre un peu bien, enfin, tu dois le faire gambader, quoi. Juste, c'est un chien, donc il a besoin de vivre. Et je peux pas, en fait, je peux pas. Okay. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je crois que j'aurais trop peur de mal le faire.
Okay. Vois,
je préfère m'abstenir.
Eli, on arrive au terme du podcast.
Ouais.
J'ai quelques dernières questions rituelles.
Mm-hmm.
Si tu avais un album à nous conseiller.
Alors, si jamais tu ne connais pas, Adios Bahamas de Népal. Si jamais tu ne connais pas non plus, soit Hilo, soit Spectre de Sheldon. C'est toi qui choisis.
D'accord.
Ces deux derniers albums. Mais du coup, là, ça fait déjà trois, quoi.
Ouais, c'est bon. Allez, je prends les trois.
Voilà, prends les trois.
Si tu avais un bouquin à me conseiller.
Mais j'ai un souvenir extrêmement vif de plein de moments. C'est Les raisins de la colère. Mais sinon, je pense que c'est un classique. Hein. Dans l'écriture de Steinbeck, il y a un truc qui m'a aussi grave touché de comment il décrit les humains, comment ça se voit quand il décrit les relations, quand il décrit les gens, quand il décrit les mouvements. Ça se voit que c'est un mec qui a regardé les gens et qui a compris les gens, je sais pas, qui a compris un truc dans la nature humaine, quoi. Et ça, je trouve ça fascinant, la manière dont il écrit de manière descriptive, l'ouverture des raisins de la colère, il parle des terres d'Oklahoma, et c'est juste, c'est peut-être trois pages qui parlent juste des terres arides, de la couleur de la terre, de la poussière, je sais pas, et c'est trop beau, quoi. C'est trop poétique, c'est trop bien écrit. Je trouve ça trop fort.
Ok. Film ou une série à me conseiller ?
En série, il y a un truc qui s'appelle Fleabag que j'ai regardé il y a 2-3 ans. C'est une série qui a quelques années. Enfin, c'est pas très vieux. Hein. C'est une série anglaise. C'est écrit par l'actrice qui joue, par l'actrice principale, quoi. Et franchement, c'est super bien. C'est, en gros, tu suis la vie de cette fille-là, quoi. Qui, je pense, c'est une genre de un peu fiction autobiographique. Donc il y a un peu les deux. Je pense qu'il y a d'elle vraiment et il y a aussi de la fiction, quoi. Donc c'est anglais, donc il y a vraiment l'humour anglais, un truc qui est très très pince sans rire et en même temps très très sarcastique, et ça, moi j'adore ce type d'humour là et c'est vraiment très bien. Je crois que c'est sur peut-être Prime Video, hein, c'est possible que ce soit là-dessus. Bah, pour ne pas faire de pub, je vais dire Netflix aussi, comme ça il y a les deux en même temps, et Amazon.
Eli, dernière question du podcast, quel est ton endroit préféré en Berry?
C'est la question la plus difficile. Je crois que je me suis jamais dit qu'il y avait un endroit que je préférais dans le Berry. Alors qu'il y a plein d'endroits que j'aime, hein, mais ça n'existe plus vraiment. Mais pour ce que j'y ai vécu avec mes amis, anciennement, en gros, là où il y a Balzaneo maintenant.
D'accord.
Donc avant, t'as vu, c'était les docks désaffectés.
Mm-hmm.
C'est vraiment pas l'endroit que je préfère, hein, en fait. Hein. Mais c'est un endroit dans lequel j'ai passé plein de moments avec mes proches, avec mes amis de Châteauroux. Mais c'est des bons souvenirs, c'est des très bons souvenirs. Que j'ai.
Bah ça me va.
Voilà.
Merci en tout cas, Eli.
Eh bah merci.
Pour cette rencontre.
Avec grand plaisir. Bah merci à toi.
Salut.
Salut.
Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à découvrir l'univers d'Eli sur toutes les plateformes et réseaux sociaux. Merci à tous les auditeurs qui m'écrivent. Ces messages me font toujours autant plaisir. Je vous donne rendez-vous avec un prochain invité. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux.